Chapitre 8. Cinq minutes après avoir quitté Clémence, M. de Carquebute descendait la côte de Rudemont. Mais ce n'était point vers Condé-le-Châtel qu'il galopait, c'était vers sa préfecture. Il était enthousiasmé. Quelle femme ! Avait-elle des inventions ? Et un calme ! Ce ne serait pas préfet qu'il serait, ce serait député. Pourquoi pas ministre ? Elle le guiderait, elle lui donnerait des idées. Surtout, elle lui écrirait ses lettres difficiles parce que l'écriture chez lui refroidissait l'invention. Il y avait aussi cette satanée orthographe qui était bien la chose la plus stupide du monde. Ainsi, quand il écrivait couramment, sans penser à ce qu'il écrivait, ça allait à peu près. Mais s'il voulait s'appliquer, ça n'allait plus du tout. S'il réfléchissait à ce qu'il allait dire, il était arrêté à chaque pas. Elle lui épargnerait ses petits ennuis, véritablement au-dessous d'un homme tel que lui. Quant à la tribune, il n'en avait pas peur. Le gaillard qui l'intimiderait par la parole serait un rude lapin. Tout à coup, il tira la bride de son cheval et se frappa le front. Quelles étaient les opinions de la petite déesse? Il n'avait jamais pensé à l'interroger sur ce point. Mais bien vite, après ce premier moment d'émotion, il se rassura. Elle était trop intelligente pour être ancien régime. Elle était comme lui, un enfant de la Révolution, et comme lui, elle n'aurait aucun scrupule à servir le gouvernement impérial qui, malgré tout, est le gouvernement de la Révolution. Il ralentit la marche de son cheval et reprit son rêve interrompu. Il les mettrait tous en terre, Arthur d'abord, le capitaine Beaujonnier ensuite. Arthur, cela ne faisait pas de doute. Encore quelques mois et l'affaire serait faite. Il avait fondu en Italie comme ces grands bonshommes de neige que font les enfants et qu'une journée de soleil dévore. Quel effondrement ! Et il y avait des gens qui s'étaient moqués de lui, Artème de Carquebute, lorsqu'autrefois il avait soutenu qu'il serait l'héritier du marquis de Rudemont. Arthur, ancien régime, sang épuisé, race affaiblie. Lui, Artème, sang vigoureux, race jeune. Il savait ce qu'il disait alors. Le moindre excès devait abattre ce colosse qui n'avait que l'apparence de la force et de la santé, tandis que lui, bien que plus âgé, résisterait à toutes les fatigues, à tous les excès. Ses prévisions s'étaient réalisées. Pourquoi celles qu'il faisait à propos du capitaine Beaujonnier ne se réaliseraient-elles pas aussi ? Il avait toujours eu de la chance, et s'il fallait brûler un cierge à la bonne mère, il le brûlerait, et même il ferait bien faire, en cachette, une neuvaine de feuilles de lierre pour que le capitaine mourût. Car il avait toujours été religieux, non pas bigot, mais pratiquant cette religion qui consiste à s'adresser au bon Dieu quand on a besoin de lui. Dans les affaires, il ne faut pas être fier ni faire l'esprit fort. Quant à lui, il avait toujours remis à leur place ceux qui se moquaient de la bonne mère et de ses feuilles de lierre. Quand il descendit de cheval, à l'hôtel du Bœuf Couronné, il y avait longtemps qu'il ne s'était senti si dispos, si plein d'espérance et de confiance. Gaiement, il se dirigea vers la maison que sa sœur et son neveu habitaient sur la courtine, et les gens qui le virent passer, marchant le nez au vent et les jambes écartées, sifflant un air de chasse, se demandèrent entre eux ce qu'avait M. de Carquebute pour se montrer si joyeux, et ceux qui le connaissaient bien furent unanimes à déclarer que, pour sûr, il venait de mettre quelqu'un dedans. Cette maison, que le substitut habitait depuis que sa mère était venue se fixer près de lui, était une des plus tristes de la courtine. Pas de jardin, parce que les jardins se payent cher à Condé. Pas de vue, pour la même raison. Simplement, une vieille bâtisse en bois, entre deux vastes hôtels, habitée l'hiver et au moment des courses, par de riches propriétaires de la campagne. Cependant, malgré sa petitesse, cette maison, avec ses deux petites fenêtres en façade sur la rue, avait un air encore décent qu'il avait fait choisir par Louis Méraud quand il avait abandonné la place du château. Elle avait l'avantage, pour eux considérable, de ne coûter que 240 francs de loyer annuel, et elle offrait au premier étage un appartement dans lequel le jeune magistrat pouvait recevoir, et au second, un logement convenable pour Madame Méraud. Quand M. de Carquebut entra dans la salle à manger, située avec la cuisine au rez-de-chaussée, Mme Méraud, qui n'avait une femme de ménage que pendant 2 heures le matin, venait de servir le déjeuner. « Ah, mon frère !» s'écria Mme Méraud en lui tendant les deux mains. « Je suis heureuse de vous voir. Depuis si longtemps que nous sommes séparés, vous allez déjeuner avec nous. » M. de Carquebut regarda la table. Entre une assiette de noix sèches et un beurrier plein de beurre salé, se trouvait un plat garni de 2 petites saucisses longues posées sur une purée de pommes de terre. C'était tout, plat de viande, plat de légumes et dessert. Pas de vin, mais dans une carafe de verre, un cidre pâle. Pour un homme qui venait souvent de Rudemont à Condé, rien que pour le plaisir de se commander un plantureux repas au bœuf couronné, le régal offert était vraiment maigre. « Je vous remercie, dit-il, mais j'ai des amis qui m'attendent au bœuf couronné. D'ailleurs, nous avons à parler sérieusement, et moi, quand je mange, je ne sais pas parler, je ne sais que manger. » « Alors, mon oncle, dit Louis, vous permettez, il ne faut pas laisser refroidir les saucisses de maman. » « Parfaitement, mettez-vous à table. Je vous expliquerai le but de ma visite pendant que vous déjeunerez. » M. de Carquebut attendit quelques instants. Puis, quand Louis eut servi sa mère et se fut servi lui-même, il tendit à Mme Méraud la lettre de Clémence. « Avant tout, dit-il, je crois qu'il est bon que ma sœur lise cette lettre. » Mme Méraud prit la lettre et la lut lentement. Puis, quand elle eut fini, elle la passa à son fils sans rien dire. Celui-ci la lut à son tour. Pendant ce temps, M. de Carquebut époussetait sa casquette de velours du bout de sa cravache. « C'est pour nous apporter cette lettre que vous avez bien voulu venir nous voir ?» demanda Louis. « Me prends-tu pour un commissionnaire, par hasard ?» répliqua M. de Carquebut, de ce ton aimable dont il avait le secret. « Notre cousin a voulu vous faire une politesse, à ta mère et à toi, et il vous a écrit cette lettre. »« Lui-même ?»« Il n'écrit plus, le pauvre garçon. La lettre écrite, il m'a demandé de vous l'apporter moi-même, afin de bien marquer le caractère qu'il attache à cette invitation, et je me suis volontiers chargé d'une ambassade qui doit nous réunir tous en famille. » Avec Madame Beaujonnier, « Est-ce que tu vas m'interroger comme si nous étions au tribunal? Ça ne peut pas m'aller, tu sais. » Puis, se tournant vers sa sœur, « Ce sont donc les enfants, maintenant, qui répondent à la place des parents ?»« Mon fils connaît mes sentiments à ce sujet, » répliqua Mme Méraud avec dignité. « Vous savez que vous m'ennuyez, tous les deux, » s'écria M. de Carquebut. « Je ne les connais pas, moi, vos sentiments, et je vous prie de me les dire clairement afin que je les reporte à Arthur. Qu'est-ce que cette allusion à Mme Beaujonnier ?»« Ce n'était pas une allusion, mon oncle, c'était une interrogation, et vous l'avez comprise à ce moment. »« Je n'ai rien compris du tout. Oui ou non, acceptez-vous l'invitation du marquis ?»« Ma mère ne peut pas s'asseoir à la même table que Mme Beaujonnier. » « Louis !» interrompit doucement Mme Méraud. « Parce que, s'écria M. de Carquebut, pourquoi ta mère ne peut-elle pas s'asseoir à une table où je m'assois bien, moi ?»« Vous êtes un homme, mon oncle, et vous comprenez votre dignité comme vous l'entendez. Ma mère est une honnête femme, elle comprend sa dignité, de son côté, comme elle l'entend. » Il ne pouvait pas convenir à M. de Carquebut d'insister au point de vaincre les répugnances de Louis et de sa mère. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu à Condé. Mais, d'un autre côté, il ne pouvait pas permettre non plus qu'on accusât Mme Beaujonnier devant lui, car c'était à sa femme que ses accusations s'adressaient, à la préfète, à la ministre. « Je vous préviens, s'écria-t-il, que si vous voulez insulter Mme Beaujonnier, je ne le souffrirai pas. C'est une excellente femme, une honnête femme. » « Il suffit, mon oncle, » répliqua Louis avec calme. « Cette discussion n'a que trop duré. Si vous le permettez, je vais répondre à mon cousin et je vous serai reconnaissant de vous charger de ma lettre. »« Poli, hein? Je laisse faire. » Sans rien ajouter, Louis sortit pour aller écrire cette réponse. « Ma chère amie, » dit M. de Carquebut à mi-voix, « ton fils est un niais. Tu as tort de te laisser mener par lui maintenant, comme tu as eu tort autrefois de l'écouter quand il t'a fait quitter le château. Cela pourra te coûter cher. » Ma réponse eût sans doute été plus douce que celle de Louis, répliqua Madame Méraud, mais, au fond, elle eût été la même. « Je ne t'en fais pas mon compliment. Autrefois, tu étais plus intelligente. Tu as tort de te laisser dominer par ton fils, qui n'est qu'un caractère grincheux. Ces magistrats se croient tout permis. » « Mon fils n'est point grincheux et vous avez tort de l'accuser. Je n'ai jamais été si heureuse que depuis que je vis près de lui. On ne peut pas avoir plus de tendresse, plus de délicatesse. » « Je ne dis pas non, mais enfin c'est un maladroit, et de plus, je trouve qu'avec Madame Beaujonnier, il manque de cette délicatesse dont tu parles. » Louis a contre Madame Beaujonnier des motifs de ressentiment qui, par malheur, ne sont que trop fondés. « Elle n'a pas voulu l'écouter. » « Ah, mon frère, comment pouvez-vous dire de pareilles choses? C'est Madame Beaujonnier qui a fait placer Denise au couvent de Sainte-Rutilie. » Et vous avez la bêtise de lui en vouloir pour nous avoir rendu le service de nous débarrasser de cette fille de comédienne. De plus, c'est elle qui a donné des instructions pour m'empêcher de voir cette pauvre enfant. Entre ses mains, le malheureux Arthur n'est qu'un jouet. Tu sais que je ne souffrirai pas cela. Enfin, prenez garde à vous. Autrefois, vous aussi, vous étiez plus intelligent et vous saviez mieux défendre l'héritage d'Arthur. À ce moment, Louis rentra, tenant à la main sa réponse au marquis. « Quoi qu'il en soit, dit-il en l'attendant à son oncle, nous vous sommes reconnaissants de votre démarche. »« Qu'est-ce que je voulais? L'union de la famille. Je plains ceux qui l'empêchent. » Disant cela, il se dirigea vers la porte, et comme Madame Méraud et Louis se levaient pour le reconduire, « Restez donc, dit-il, à manger vos saucisses. » « Mais, vous savez, vous n'êtes que des jobards, et celui qui vous le dit, ne l'oubliez pas, c'est un homme qui voit juste. »